Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de cette édition. Sécurité, organisation des élections, lutte contre l'impunité, la corruption, les assises de la refondation. Voilà quelques priorités du nouveau gouvernement de transition. Le premier conseil de cabinet de cette nouvelle équipe s'est tenu hier dimanche alors que des réactions continuent sur sa composition. Les jeunes de Badialan 3, en commune 3 du district de Bamako, demandent le déguerpissement de la gare routière et la libération d'autres espaces verts. Ils ont organisé un sitting ce samedi pour dénoncer cette situation. Pas de réaction des autorités communales pour le moment. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des albinos, nous faisons ce matin un zoom sur le quotidien d'un albinos. Comment vit-il sa différence de peau et quelles difficultés rencontre-t-il? Les détails dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo à la mise en onde de Mamadi Keïta. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Après la mise en place du gouvernement vendredi dernier, le premier conseil de cabinet s'est tenu ce dimanche à la primature devant les membres du gouvernement. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a une nouvelle fois prôné une gouvernance de rupture. Il s'est aussi engagé à lutter contre l'insécurité, la corruption et l'impunité, entre autres. Pendant ce temps, la nouvelle équipe gouvernementale suscite des réactions. Pour certains responsables de partis politiques, le gouvernement inclusif et de rupture annoncé n'a pas été concrétisé. Des leaders d'associations de la société civile et des groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ne partagent pas cet avis. Ils assurent leur soutien au gouvernement. Les détails avec Aïssata Diarra.
La coalition des partis politiques Ensemble pour le Mali EPM et le Parti pour la Renaissance nationale Parina dénoncent la composition du nouveau gouvernement. Ils estiment que la liste rendue publique vendredi dernier n'est pas conforme aux promesses annoncées au préalable. À cela s'ajoute la taille du gouvernement que certains jugent élevée. La situation pourrait créer des tensions selon Djigiba Keïta, secrétaire général du Parina.
Du coup du 18 août 2020 sont ces deux tendances qui se sont retrouvées à l'exclusion de toutes les autres. Si la transition n'est pas inclusive, elle n'est pas consensuelle, elle va avoir beaucoup de problèmes.
Du côté des organisations de la société civile, certains leaders estiment que l'heure n'est pas aux critiques. Pour eux, l'accent doit être mis sur les voies et moyens pour relever les défis auxquels le pays fait face. Dr Adama Traoré, président de la coordination des associations et regroupements de la société civile du Mali.
On ne va pas se mettre encore à critiquer ce qui est là. Le groupe M5 et ceux qui ont fait le coup d'État, maintenant ils sont en face de la société civile. Nous allons les soutenir afin que nous puissions mettre une dépôt au travail. Car ce qui manque ici, c'est le travail. Rien n'est parfait. Tout le monde ne peut pas être content. C'est que nous, on fait le mérite de veille.
Des responsables de la coordination des mouvements de l'Azawad de Sema, quant à eux, se disent satisfaits. Toutefois, ils invitent les autorités à diligenter la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Tel est également le point de vue des responsables de la plateforme, même s'ils reconnaissent que l'équipe mise en place n'est pas inclusive.
Reportage signé Aïssata Diarra. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. De sources locales, des combats ont opposé ce dimanche des combattants de la plateforme et à ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les affrontements ont eu lieu à Tilemsi, dans la région de Tombouctou. Des responsables des mouvements de ces deux mouvements confirment les faits sans donner plus de détails. Une altercation entre des policiers en faction et certains éléments de la garde nationale est survenue le 12 juin dernier à Sévaré et à Kaï. L'incident fait suite à une incompréhension la veille entre les forces de défense et de sécurité à Sotuba, selon le chef d'état-major général des armées. Dans un communiqué publié ce samedi, il appelle au calme et à la vigilance. Par contre, pour des observateurs, ces actes sont inquiétants au regard de la situation sécuritaire du pays. Il demande aux autorités de prendre des mesures idoines pour circonscrire le problème. Boubacar Salif Traoré est spécialiste des questions sécuritaires. Il est joint au téléphone par Ali Cissé.
Ce sont des des actes qui sont parfois isolés, mais leur fréquence augmente de plus en plus. Et c'est là où il y a une certaine crainte. Nous savons qu'au sein des forces de défense et de sécurité, il y a beaucoup d'actes isolés de cette nature. C'est lié à plusieurs phénomènes. Il y a d'abord le fait d'être sous pression, notamment confronté à une crise qui dure depuis plusieurs années. Ensuite, il y a le fait qu'il n'y a pas assez de coordination entre les différentes forces. C'est-à-dire, il faut qu'au sein des différentes forces, qu'on puisse avoir de la coordination et de la capacité à travailler ensemble. Depuis un certain moment, cette absence de coordination a fait que les éléments des différents corps ne se connaissent pas assez et n'entretiennent pas des relations de travail assez constantes. Je pense qu'il est très important que les autorités au niveau ministériel prennent ce problème à bras le corps.
8h05 à Ségou, des hommes armés non identifiés ont attaqué ce dimanche un bus sur l'axe Ségou-Bamako. Selon des témoins, le véhicule quittait Bamako pour Sévaré. Le bilan serait de 4 blessés graves et un porteur d'uniforme qui serait porté disparu, affirment les mêmes sources. Elles précisent que des téléphones et d'autres objets de valeur ont été emportés. Libérer nos espaces publics, voilà le slogan que scandaient des jeunes de Badialan 3 en commune 3 du district de Bamako ce samedi. Les manifestants demandent le déguerpissement de la gare routière située au bord de la route et d'autres espaces verts illégalement occupés selon eux. Pour l'instant, la mairie ne s'est pas prononcée sur le sujet, mais l'adjoint au maire de la commune 3 promet que les autorités communales réagiront au cours de la semaine. Écoutons Ousmane Touré, président de l'association des jeunes du Badialan 3. Il est joué par Mamadou Samasikou.
C'est la voie Kasekita. En quittant Andalaï ou encore Kati en passant par le Badialan pour se rendre en ville et vice-versa, nous constatons à longueur de temps des installations, des occupations illicites, illégitimes de nos espaces publics, des espaces verts, nos espaces de sport par les compagnies de transport, les stations d'essence et souvent par des activités informelles. Les manœuvres et les stationnements sauvages des voitures et des autocars provoquent à longueur de journée des accidents, ce qui malheureusement coûte assez souvent la vie aux habitants. Par exemple, en cas d'incendie d'une station d'essence, tout ce que ça peut causer. Notre proposition, c'est un déguerpissement pur et simple. On espère que le gouverneur nous réponde favorablement. Sinon, au-delà de ça, nous comptons voir la procédure judiciaire pour récupérer nos espaces publics.
Ousmane Touré, président de l'association des jeunes de Badialan 3. Il était joint par Mamadou Samasikou. L'albinisme est vu d'un mauvais œil au Mali. Les propos sont de Mohamed Kouyaté, ce jeune albinos dénonce le rejet dont il est souvent victime. Selon lui, les préjugés à l'égard des albinos ne sont que des superstitions. Notre reporter Aboubakr Nag Mohamed Yattara l'a rencontré dans le cadre de la Journée internationale des albinos célébrée hier.
Avec les gens qui nous pointent du doigt, les différents de nous, ou bien quand tu passes dans la rue, les enfants vont cracher. Bon, si tu ne craches pas, ton enfant va être pareil que lui. Tu trouveras que ce sont leurs parents même qui leur instaurent ce genre d'éducation-là. Donc c'est vraiment pas facile. Il y a même des adultes qui peuvent même courir en nous voyant. D'autres pensent qu'on est même des êtres surnaturels comme ça. Bon, ce sont des superstitions. C'est vraiment pas quelque chose qu'on doit croire. À la faculté, déjà, comme on est tous des grands, bon, même s'ils ressentent quelque chose, bon, ils ne le montrent pas. Mais on peut sentir à leur comportement. Quoi. On vit avec l'habitude, avec la mauvaise vision. Manier les trucs d'informatique, ça va pas être pratique.
D'une journée internationale à une autre, avoir des poches de sang au Centre national de transfusion sanguine relève d'un parcours de combattant, selon des demandeurs. Pour des responsables du centre, le problème est dû à la baisse du taux de donneurs de sang, mais aussi des difficultés financières auxquelles est confronté le service. C'est dans ce contexte que le Mali célèbre ce 14 juin la journée mondiale du donneur de sang. Dramane Maïga nous fait le point.
Donner des poches de sang fréquemment n'est pas une garantie pour en avoir en cas de besoin, se lamentent des citoyens. Certains l'expliquent par des magouilles ou la négligence des services chargés de les fournir aux demandeurs. D'autres, en revanche, incitent la population à donner davantage du sang pour renforcer la banque et sauver des vies.
De nos jours, c'est un problème d'avoir le sang pour un parent en besoin. Les autorités doivent trouver une solution.
À chaque fois qu'il y a un manque de poches de sang, j'invite tout le monde à faire les noms.
Au Mali, si tu as un malade en besoin de sang, même si tu donnes le tien, tu auras des problèmes de compensation.
Des responsables du Centre national de transfusion sanguine reconnaissent ces difficultés, mais affirment n'avoir pas assez de moyens pour les satisfaire. Docteur Amadou Bedjara, directeur général du Centre national de transfusion sanguine.
Nous sommes confrontés à la nécessité de concilier à la fois les exigences de disponibilité et les exigences de qualité. Aussi, nous avons des difficultés en termes d'équipement. Il y a eu un incendie en début avril. Nous sommes confrontés à une insuffisance des ressources financières aussi pour faire face à tous les besoins de la structure.
Le Mali commémore sobrement cette journée dédiée aux donneurs de sang à cause de la crise sociopolitique du pays, souligne Dr Diarra. Toutefois, au cours de cette semaine, des activités de collecte de sang seront menées dans diverses localités avec l'appui des associations des donneurs de sang.
Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à COVID-19. Un nouveau cas de coronavirus, 22 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés hier dimanche 13 juin par les autorités sanitaires. La situation cumulée donc de 14 350 cas positifs, 9 959 guéris et 450 décès. C'est ce qui nous conduit à votre rubrique Actu COVID présentée ce matin par Khalifa Goïta.
Un fonds social de 100 milliards de francs CFA est mobilisé par l'État malien pour venir en aide aux personnes démunies suite au coronavirus dans le pays. Cette initiative du gouvernement malien a commencé en 2020. Elle est mise en œuvre par le programme de filets sociaux au Mali, Diguissé Meyiri. Selon ses responsables, chaque bénéficiaire doit avoir une somme de 90 000 francs CFA selon des critères. Quels sont ces critères? Les détails avec Aïssata Diarra.
Cette opération est destinée à 1 million de ménages à travers les pays. Selon les responsables du programme des filets sociaux au Mali, Diguissé Meyiri, l'objectif est de venir en aide aux ménages pauvres ou infectés économiquement par COVID-19. Cependant, certaines personnes qui disent être déjà inscrites sur la liste nous ont confié qu'ils n'ont pas encore reçu la somme.
C'était vers mois de mars. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu mon argent.
J'ai une amie à moi qui s'inscrit au même moment. Elle a reçu son argent.
Des rumeurs circulaient qu'ils envoyaient de l'argent aux gens. À vrai dire, je n'ai rien reçu.
Selon Mahamoud Ali Sako, coordinateur du programme des filets sociaux au Mali Diguissé Meyiri, les cibles sont identifiées par les autorités communales ou les chefs de village. Monsieur Sako nous explique les critères.
C'est être pauvre. Il s'agit d'une pauvreté alimentaire d'abord. Le deuxième critère, c'est les autres aspects de revenus, d'activités affectées par la maladie. C'est les communautés elles-mêmes qui choisissent les bénéficiaires. Maire de la commune. Au niveau des quartiers aussi, chaque chef de quartier met en place un comité de ciblage. Ce groupe va valider ce choix par une assemblée au niveau du quartier ou du village. Dès qu'on reçoit ces listes, maintenant, nous procédons au paiement.
Toutefois, les responsables du projet disent être à pied d'œuvre pour que les personnes non inscrites sur la liste puissent recevoir leur dû.
À présent, la question d'auditeur. Elle est répondue par professeur Akori Ak-Iknan, coordinateur national de lutte contre COVID-19 au Mali.
Bonjour professeur. Certaines personnes pensent que quand on reçoit le vaccin, on est guéri complètement ou immunisé contre la maladie. Cela est-il vérifié?
Si vous êtes vacciné, en principe, il y a plus de chances que vous soyez immunisé. Ça veut dire que vous n'allez pas contracter la maladie. C'est ça l'intérêt du vaccin. C'est un moyen supplémentaire de la lutte contre cette pandémie, en plus des mesures de prévention habituelles.
Ainsi prend fin ce numéro d'ActiCovid. Merci pour votre confiance. N'oubliez surtout pas de porter vos masques pour vous protéger contre la COVID-19.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
À 8h passée de 13 minutes se referme cette édition qui vous a été présentée par Sekou Gadjigo, à la mise en onde de Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321.